micro Armel Lucas, délégué diocésaine pour la catéchèse, avec des invités, Monsieur Olivier Faffet, animateur d'Anne-nous la parole. Bonjour Olivier.
Bonjour Armel.
Et puis Madame Marie-France Dupré, psychologue. Bonjour Marie-France.
Bonjour Armel.
Bienvenue dans l'émission Anne-nous la parole.
Merci.
Alors c'est la dernière de l'année, et puis vous savez, chers auditeurs, qu'en fin de parcours d'émission, nous faisons un petit tour d'horizon des émissions qui sont passées avec les enfants et donc avec des adultes. Olivier a suivi les émissions, Marie-France les a écoutées. Nous allons peut-être faire un petit rappel de ce qui s'est passé, parce que ça remonte à la première émission, c'était tout début septembre, où il y avait deux adultes aussi. Rondreau, il a parlé de sa découverte de la foi avec sa grand-mère et une grand-tante. Et puis Bernard avec son expérience de grand-père. Tous deux nous ont dit combien la prière vécue en famille le soir est importante, que ce soit dans le cadre de la joie pour se retrouver ou pour lire sa journée. Alors Bernard, lui, se situe dans un rôle de régulateur pour ses petits-enfants, avec le souci qu'ils découvrent Jésus proche d'eux, et puis qu'ils aient aussi le souci du pardon en famille. En Marie-France, est-ce que vraiment il y a des différences quand on découvre comme ça Jésus, entre ce qui se vit à la maison avec les parents, et puis ce qu'on peut vivre avec les grands-parents ?
Je pense que la place des grands-parents, c'est que normalement ils ont un peu plus de temps. Et ça, je pense que c'est important, c'est pas toujours le cas parce que les grands-parents maintenant sont toujours des gens pressés et qui peut-être quelquefois travaillent encore, enfin c'est pas si simple que cela, mais c'est important, je pense, que cette génération-là puisse offrir quelque chose de plus calme, de plus cool pour les enfants. On peut prendre le temps un peu plus. Chacun a sa période, hein. Les parents sont plus souvent plus stressés, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, je pense que pour les grands-parents, c'est un peu la même chose que pour les parents, mais à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est l'exemple qui en dit plus pour les enfants que tout le baratin qu'on pourrait leur faire, enfin tout ce que se sent obligé de dire, parce qu'il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent des choses, d'accord, on a des choses à leur transmettre, mais c'est bien plus important pour eux de voir ce qui nous fait vivre vraiment. Et puis, les grands-parents sont ceux qui sont dépositaires de l'histoire de la famille, en tout cas d'une grande partie. Et puis, souvent, les enfants ont besoin de savoir comment étaient leur père et leur mère quand ils étaient enfants. Et ils posent des questions quelquefois assez coquines. Hein. Dis-nous ce que faisait papa ou ce que faisait maman. Raconte-nous toutes ces bêtises. Mais ça fait aussi partie de ce qui est important pour les enfants.
Et ça, les parents, ce sont les parents qui le racontent aux enfants, c'est pas pareil.
Ben, chacun a son rôle. Mmh. C'est-à-dire que les grands-parents ne remplacent pas les parents et inversement. Mmh. Et c'est important que chacun ait sa place. Et sa place bien caractéristique. Je pense que il y a peut-être un souci maintenant, c'est que quelquefois, pas toujours, les grands-parents s'appliquent tellement à rester jeunes qu'il y a une espèce de confusion des générations. Et ça, c'est dommage. Les enfants, ils ont besoin d'adultes qui n'ont pas le même âge, qui ne sont pas de la même génération et qui, du coup, n'ont pas la même place, pas le même rôle.
Alors, merci Marie-France. Maintenant, on va se tourner vers les autres émissions, donc avec les enfants. Donc, Olivier, on l'a entendu hein, dans toutes les émissions, que ce soit dans les paroisses ou dans les écoles. Les enfants avec la Bible, avec des témoins, avec leurs questionnements, leurs catéchistes, ils vont à la rencontre de Jésus. Mais pour eux alors, c'est qui Jésus ?
Vaste question.
Ah.
Et pour toi ? C'est-à-dire que la question, c'est difficile d'y répondre parce qu'on ne leur pose pas directement cette question. Sauf à un moment où on étudie l'évangile de Matthieu, vous savez, c'est quand il demande « Que disent les gens sur moi ?» et « Pour vous, qui suis-je ?» Alors, à ce moment-là, on leur donne la réponse. Mais n'empêche qu'entre-temps, eux, comme nous finalement, on est toujours dans un cheminement, on est toujours à la découverte de Jésus. Et les enfants y sont pleinement. Alors, si on leur demande, ils donnent des réponses variées. Ils disent, c'est quelqu'un qui a vécu il y a longtemps, qui a fait des miracles. Parfois, ils disent, Jésus, c'est Dieu. Puis parfois, ils donnent des réponses fantaisistes. Hein. Ils vont dire c'est un magicien, avec ses miracles, il a fait des trucs incroyables. Et puis, certains disent tout simplement qu'ils ne savent pas. Ils avouent. Ils osent dire qu'ils ne savent pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un questionnement qui demeure chez eux, parce qu'on leur parle toujours de ce monsieur, de quelqu'un de particulier qui est proche de nous. Et je crois qu'ils font un peu comme les apôtres. Les apôtres avaient répondu, c'était peut-être Jean-Baptiste, ou alors Élie, ou Jérémie, ou peut-être même un prophète. Ils ne vont pas utiliser ces termes-là, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas appris qui était Jérémie, qui étaient les prophètes. Mais ils essayent de lui donner une place par rapport à quelque chose qu'ils connaissent. Et puis, après il y a la réponse de Pierre qui est inspirée, qui dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Il y en a quelques-uns. Alors peut-être aussi qu'ils ont parlé un peu plus de Jésus dans leur famille et qu'ils répètent ce qu'ils ont appris. Mais ils sont dans cette démarche, un peu comme les gens à l'époque et un peu comme nous. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à la fois lointain, mais aussi présent. On se demande toujours, que dirait Jésus à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il nous demande aujourd'hui de faire? Et c'est quelqu'un qui se révèle chaque jour, comme il s'est révélé petit à petit aux apôtres. Et il se révèle aux gamins, au fur et à mesure qu'ils font du caté, au fur et à mesure qu'ils parlent entre chrétiens, qu'ils parlent avec les parents et avec les animateurs. C'est aussi une question qui est très intime. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez fort et des fois on n'ose pas dire. C'est quelque chose qui est trop proche de nous et qui nous donnerait presque le vertige.
En tout cas, on sait, hein, quand on enquête un petit peu dans les paroisses, que les enfants sont très frustrés quand ils commencent du caté sans qu'on leur parle de Jésus.
Ouais.
On va leur parler d'Abraham, de David, de Moïse. Mais quand est-ce qu'on nous parle de Jésus? Voilà, ils arrivent avec ces questionnements, ils ont entendu Jésus et ils viennent très curieux, je crois.
Hein. Oui, toujours très curieux.
Toujours très curieux. Alors, si on continue un petit peu dans les découvertes des émissions, on est allé à Sainte-Thérèse en Vallée d'Avre. Et puis, vous parliez, Olivier, d'évangiles. Là, ils ont travaillé deux évangiles, les enfants, même pas peur, hein, deux carrément. Tout au cours d'ailleurs d'un pèlerinage. Alors, il y avait le jeune homme riche et Marthe et Marie. Et puis, ils ont parlé un petit peu de leur vie. Alors, je pense plutôt leur vie à l'école avec leurs camarades de classe. Quelles attitudes ils ont quand il y a surtout des nouveaux qui arrivent. Ils disent, on les accueille, on les invite à déjeuner avec nous ou nous, on va se joindre à eux. On essaie d'aider les plus fragiles. On ne fait pas de différence. Ça, ce sont des belles valeurs à la fois chrétiennes et humaines qui sont partagées par ces enfants. Alors, Marie-France, ils vivent ça au caté, ils vivent ça à l'école. Mais les jeunes parents, vous avez parlé tout à l'heure des grands-parents, hein, avec le il faut bien marquer les générations. C'est une difficulté qui peuvent se voir dans l'éducation, mais aussi dans le contexte sociétal actuel. Comment des jeunes parents, ils sont aidés dans l'éducation des enfants? Comment ils sont accompagnés?
Eh bien, en y réfléchissant, je me dis qu'ils ne le sont pas toujours, malheureusement. Qu'ils se sentent un peu seuls. On peut se sentir seul, surtout quand on est jeune parent, qu'on a un premier enfant, qu'il y a une pression qui est quelquefois un peu lourde. Et puis, il y a tellement de possibilités maintenant, c'est comme au niveau individuel pour les adultes. C'est comme si on n'avait plus le droit de se tromper, comme si on n'avait plus le droit d'être malheureux, parce qu'on a tout pour être heureux. On a plein de choses pour nous aider, des tas de bouquins, des tas de gens qui nous racontent comment il faut faire pour être des parents merveilleux. Eh bien, quelquefois, ça n'aide pas. Bon. Mais il y a quand même beaucoup de possibilités avec Internet, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on peut tomber sur des choses qui ne sont pas forcément aidantes, même si elles pensent qu'elles le sont. Et puis, il y a les réseaux sociaux, aussi pour le meilleur et pour le pire. Mais je sais que les jeunes parents qui peuvent être aidés par leur père, PAIRS, c'est important pour eux. D'abord, ils se sentent moins seuls. Ils ne sont pas tout seuls à ramer. Là, je pense plutôt aux parents d'adolescents, mais aussi aux jeunes parents de bébés. C'est quand même un peu bizarre, un bébé. Et puis, un enfant qui grandit, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre, quelquefois. Par exemple, je pense aussi à ces lieux, ces contacts sur Internet par rapport à l'allaitement, par exemple. Il y en a qui peuvent ne pas avoir envie d'allaiter, pourquoi pas. Et puis celles qui ont envie d'allaiter, c'est pas toujours simple. Donc de savoir qu'on peut poser les questions, qu'il y a des gens qui ont vécu ça, qui peuvent en parler, c'est important. Et dans tous les autres aspects de l'éducation, c'est la même chose. Il faut pouvoir en parler à quelqu'un, à d'autres parents, qui sont un petit peu en avant, qui sont un petit peu plus âgés ou pas, ou qui on sont en train de vivre la même chose. C'est pour ça que les groupes de parents, quand même, ça peut être important. Et puis, il y a des lieux d'accueil parents-enfants, où on accueille les enfants avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Et là, on peut rencontrer des professionnels de la petite enfance, mais aussi d'autres parents. Et ça, c'est hyper, pas forcément rassurant, mais c'est quand même le mot qui me vient, de pouvoir parler de ce qui nous arrive, qui n'est pas toujours tragique, enfin, simplement pouvoir en parler. Et d'ailleurs, je peux dire aussi, et là, j'ai l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais il ne faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, enfin, aller voir un psy, hein, pour tout dire, quand il y a un problème avec un enfant, parce que ce n'est pas parce qu'on franchit la porte d'un psy qu'on en prend pour des mois, et puis qu'on peut simplement avoir besoin d'un éclairage, de quelque chose d'un tiers qui peut nous permettre de parler de ce qui pose question. Et quelquefois, ça suffit de voir une fois, deux fois, trois fois, et puis on y voit un peu plus clair. Voilà, on peut se faire aider de toute façon. Mais dans la vie courante, c'est important de pouvoir en parler avec les autres. Et quelquefois, on a peur d'être perçu comme des mauvais parents. Bon, déjà, les parents parfaits, ça n'existe pas, non. Et heureusement.
Oui, ou des parents qui ne savent pas faire.
Oui, bah oui.
Voilà. De ressentir ça, comme vous disiez, comme un échec, parce que la société actuelle, elle montre toujours les choses qui vont bien.
Oui, et puis on n'a pas le droit de ne pas savoir. On a tellement de moyens de savoir.
Oui.
Mais personne ne sait tout, personne n'est tout puissant, ouais. Heureusement.
Alors, merci Marie-France. Et puis, écoutez, chers auditeurs, c'est le moment de la pause musicale avec les enfants de Saint-Aventin.
Pour le ciel et la terre remplis de tes bienfaits, les champs et les rivières, les arbres et les forêts, les nuages et le vent, la lune et le soleil, et les êtres vivants, toutes tes merveilles, pour la beauté de ta création, je chante ton nom. Je prie. Tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils soient heureux. Mais quand je fais le mal, je deviens malheureux. Je casse ton image, des larmes dans mes yeux. Recrée-moi chaque jour, remplis-moi d'amour. Si j'abîme ta création, je te demande pardon. Ton souffle créateur nous met en communion. Je laisse de côté tous mes vieux vêtements. Je veux m'habiller de sa lumière maintenant. Tu fais renaître ta création. Je chante ton nom. Toi, mon Dieu, tu me donnes la vie. Tu me fais à ton image.
Retrouvons les invités de Radio Grand Ciel pour l'émission À nous la parole, avec un regard, cette fois sur l'émission de novembre. Moi, j'ai trouvé un accent très théologique, hein, c'était profond. Hein. Olivier et les enfants, ils étaient très très inspirés. La création, ça leur parle, que ce soit par la Bible ou par la science. Ils ont revisité le pourquoi et le comment de la création. Alors, est-ce que vous savez s'ils ont parlé d'écologie et de la responsabilité de l'homme, et de la leur aussi, le jour du caté?
Alors non, ils n'ont pas parlé d'écologie, mais ils ont parlé de plein de choses.
D'accord.
C'est-à-dire que, en termes d'écologie, tout simplement, non, hein, ça n'a pas été évoqué. Par contre, avec la création, ils ont tout simplement questionné leur place dans ce monde, dans l'univers. Pour être plus large encore. C'est-à-dire que, déjà, géographiquement, ou alors en termes de place, de façon plus métaphysique, où est-ce qu'ils se trouvent, où se trouvent les autres? Et avec les grandes questions fondamentales qui vont déborder la simple place, donc il y avait de tout, hein, c'était un foisonnement, ça allait donc de notre situation, là où nous sommes, comment nous sommes, mais aussi... pourquoi les guerres? Pourquoi les crimes? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Ça va dans tous les sens, vraiment. Hein. Et alors, l'autre question, alors, si on veut essayer de voir plus vers l'environnement, y a-t-il des gens autres que sur Terre? Et quelle forme est-ce qu'ils ont? Donc, en fait, la création, est-ce qu'elle a eu lieu seulement sur Terre? La création de l'homme? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Est-ce qu'elles nous ressemblent? Est-ce qu'elles connaissent Dieu? Bref. Et donc, ce sont des questions que nous, parfois aussi, nous nous posons et qui nous embarrassent parce qu'on n'a pas les réponses. Mmh. Alors, aujourd'hui, la science nous aide, n'est-ce pas? Donc, même en religion, on parle de science, puisque là, pendant le récit sur la création, ils ont fait une lecture biblique. Donc, ils ont vu la forme poétique, la forme métaphorique. Ils ont bien vu que c'était un récit. Ils ont vu que ce récit montrait un monde harmonieux avec l'humain au sommet de la création et avec un ordre qui est donné par Dieu à l'humain qui est de prendre soin de la terre. Alors, dans les textes, je crois que c'est « soumettez-la ». Mais la compréhension qui est faite aujourd'hui, c'est « prenez-en soin ».
Oui, voilà. Hein, et puis le texte du pape avec la Laudate aussi.
Voilà.
Enfin, François.
Voilà. Et l'autre texte qu'ils ont étudié est un texte scientifique qui montre comment ça s'est passé. Voilà. Donc, ils ont vu à la fois le texte biblique qui montre pourquoi nous sommes là, qui montre comment nous nous plaçons au milieu du monde, comment nous pensons que Dieu nous a mis au milieu du monde. Et il y a ce texte scientifique qui montre comment on voit que ça s'est passé. Et ces deux problématiques, ou du moins ces deux représentations, les passionnent. Je dois dire, me passionne aussi.
Je crois, oui. Je vous pose la question. Alors, Marie-France, un enfant de 8, 9, 10 ans, il peut comme ça comprendre qu'il y a un pourquoi, un comment, et se construire avec les réponses qu'on lui donne, mais les questions qu'il continuera à se poser toute sa vie autour de pourquoi je suis là, est-ce qu'il y en a d'autres dans l'univers. Comment un enfant se construit à cet âge-là, ces questions-là, comment il faut les aborder? Parce qu'il y a le caté, ce qu'il entend au caté. Mmh. Alors là, très bien, le caté a mis aussi un texte scientifique, mais après, il y a aussi ce qu'il entend à l'école. Comment ça se passe dans la tête d'un enfant?
Eh bien, ça se passe, ça fait comme une grosse marmite. où il y a plein de choses qui bouillonnent. Mais comme pour nous, enfin, ce que disait Olivier, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que les enfants, à cet âge-là, ils commencent à se poser des questions, j'allais dire, qui ont l'air raisonnables, mais qui ne le sont pas du tout. C'est-à-dire que les questions que nous, on continue à se poser toute notre vie et auxquelles on n'a pas la réponse. Et j'allais dire que c'est ça qui est superbe. C'est-à-dire que, heureusement qu'on n'a pas la réponse. Parce qu'il y a une époque où on avait trop tendance, à mon avis, au catéchisme, à donner les réponses, même avant que les questions soient posées. C'est-à-dire qu'on avait les réponses. Vous avez sûrement une question, parce que moi, j'ai la réponse. Et ça, c'est terrible, parce que je pense que l'important, c'est de se baser, comme le disait Olivier tout à l'heure, sur les questions des enfants. Les enfants, ils en ont plein à cet âge-là. Mmh. Ils en ont d'autres quand ils sont plus jeunes. Ils ont aussi des questions différentes et ils sont dans un monde un peu magique, enfin quelque chose qui peut paraître pour les adultes un peu irrationnel. Et là, c'est possible. Mais à cet âge-là, ils commencent à réfléchir. À avoir un peu plus de raison, si on peut dire, c'est pas un hasard, ah oui. Si on dit que le 7 ans, c'est l'âge de raison, c'est pas parce qu'on devient raisonnable, c'est parce qu'on peut jouer avec les idées. Voilà. Donc l'important, c'est de jouer avec les idées, de jouer avec les idées avec les autres du même âge, et de savoir qu'on peut, avec les adultes qui nous entourent, y compris au caté, jouer aussi avec ces idées-là et poser des questions auxquelles l'adulte pourra soit répondre plus tard, soit dire « mais moi non plus, j'ai pas la réponse ». Mais on pourra continuer à y réfléchir ensemble. Et petit à petit, on aura des réponses ou des gens qui ont vécu des choses qui les ont aidés à avancer, qui les ont aidés à vivre vraiment, à vivre leur vie d'homme. Et c'est ça qui est intéressant. J'allais dire, il n'y a que ça qui est intéressant. Mais j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, dans une journée à Paris, sur jeunesse et spiritualité au pluriel, où il y avait des ateliers pour les enfants et un certain nombre de propositions, dont des éditeurs et des livres, donc des auteurs, pour aider les enfants et les adultes à mieux se connaître dans les différentes religions. Il y avait des gens de religions très différentes. Et l'après-midi, il y avait une table ronde. Dans cette table ronde, il y avait une femme rabbin, il y avait un musulman, il y avait des gens très différents. Et il y avait une responsable de catéchèse qui disait que vraiment la seule chose qui compte, c'est de laisser les enfants les laisser venir avec leurs questions et ne pas essayer d'y répondre coûte que coûte. Réfléchir avec eux. Les enfants sont des vrais philosophes.
Tout à fait. Et c'est bon qu'ils aient un lieu où c'est possible de se questionner en toute liberté.
Ça, c'est clair.
Oui. Voilà. Et le caté, c'est ça. Alors, voilà, inscrivez vos enfants au caté pour en poser toutes les questions. Alors, les enfants de Saint-Aventin, ils ont aussi fait une expérience incroyable. Olivier, vous allez nous raconter ce qu'ils ont vécu. Ils ont fait l'expérience du miroir. C'est quoi ça, cette expérience?
Alors, c'est une expérience à laquelle je n'ai pas assisté, mais Christine Boucher, qui a animé donc, la séance de caté, m'a expliqué que les enfants recevaient une boîte, enfin, donc on leur proposait de voir l'image de Dieu dans une boîte. Alors, la règle du jeu, c'était la boîte est fermée, tu l'ouvres pour voir l'image de Dieu, et tu ne dis pas aux autres pour qu'ils gardent la surprise. Et donc, chacun son tour, les enfants sont allés ouvrir la boîte. Et effectivement, ils ont vu leur reflet, leur image au fond de la boîte. Et donc, on en a très peu parlé pendant l'émission, mais je me souviens qu'en préparant l'émission, Christine m'en a beaucoup parlé et elle en gardait un souvenir très ému. Parce qu'elle disait qu'ils étaient étonnés, à la fois étonnés et contents, et valorisés, un peu incrédules, et... ce qui était caractéristique de la force de ce qu'ils avaient vu, c'est que après avoir fait ça, ils ont gardé le silence, ils sont revenus à leur place assez sérieusement, un peu comme s'ils avaient grandi en une seconde, comme une révélation. Il y a quelque chose de fort qui s'est passé, quelque chose de très profond. Et peut-être qu'ils n'ont pas compris tout de suite. Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est une blague? Mais quelque chose s'est passé, une prise de conscience. Certainement aussi de la proximité entre Dieu et chacun de nous. Vraiment quelque chose de l'ordre de l'expérience. C'est plus seulement une parole qui est venue verticalement, c'est eux qui ont vu quelque chose.
Et puis c'est pas courant hein, comme expérience. Mais Marie-France, c'est une expérience qui existe en psychologie, le miroir. On fait des choses avec des miroirs. C'est important, son reflet ?
C'est un moment très important, ce qu'on appelle le stade du miroir. Mais ça se passe plutôt vers 6-18 mois.
Ah oui.
Voilà, c'est quand l'enfant est tout petit et qu'il a une image de lui assez... Enfin, il n'a aucune possibilité d'unité corporelle. Ça lui fait complètement défaut. Et donc, à un moment... Il se voit dans le miroir. Quelquefois, il se voit dans le miroir dans les bras d'un adulte. Et à ce moment-là, il y a une conscience d'éclair où l'enfant saisit que c'est lui qui est là et que à côté c'est la même personne que celle dont il est dans les bras. Enfin bon. Et souvent, c'est une expérience assez joyeuse, enfin il rit, quelquefois il éclate de rire, quelquefois il reste complètement ébahi, et puis bon, il y a des stades différents, des moments différents qui se passent entre l'étonnement, le plaisir, et bon, mais c'est un moment très très important, mais que l'enfant vit tout petit. C'est un certain Jacques Lacan qui a parlé surtout de ce stade du miroir, mais pas que, et on peut se dire que c'est une première ébauche du moi. Donc c'est quand même un moment, oui, que je disais, très important. Mais là, ce dont vous parlez, c'est différent. C'est complètement différent. C'est une expérience qui a été proposée, qui est intéressante. Si je veux me faire l'avocat du diable, on peut se dire que ça peut être un peu, pas dangereux, mais ça peut poser question. Parce que quand même, une certaine tendance de l'enfant tout petit, pas à 8-9 ans, mais tout petit, et ça peut continuer très longtemps, y compris chez nous les adultes, c'est de se croire tout puissant. Donc si on dit à l'enfant, regarde, là tu vas voir l'image de Dieu, et qui se voit lui, s'il commence à se prendre pour le bon Dieu, alors là, on est mal parti. Mais bon, c'est vraiment l'avocat du diable, parce que ce que décrit Olivier, c'est pas cette expérience-là qui a été vécue, ça a posé une question. Après, il faut pouvoir en reparler avec eux, je pense.
Oui, c'est important. C'est le débat qui a eu lieu après.
Ah, oui, je pense qu'il faut en reparler.
C'est très important, voilà. Ça, oui, un débat entre eux.
Voilà, voir qu'ils ne sont pas Dieu, ils sont à l'image de Dieu.
Oui, c'est important. Mais vu le nombre de jeux vidéo auxquels ils jouent maintenant, et des bandes dessinées, qu'ils lisent des mangas, etc., je vous dis, c'est un peu faire l'avocat du diable que de dire ça, mais je pense que c'est important de le reprendre avec eux, et d'essayer de voir ce que ça dit. Enfin, je veux dire, on peut pas faire une expérience comme ça sans que ce soit repris, quoi.
Non, effectivement, c'est quelque chose qui est au cœur d'une séance de KT. Et puis, une des choses fondamentales dans le KT, c'est justement le dialogue, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Le fait que les enfants puissent poser des questions, qu'on n'ait pas toujours la réponse et qu'on réfléchisse avec eux.
Et qui s'interpellent entre eux, ça c'est absolument fantastique aussi. Les laisser se parler entre eux, c'est magique. Très bien, écoutez, merci à vous deux, hein, vraiment.
Merci.
C'était la fin, donc donne-nous la parole. Merci aussi à Simon qui réalise le montage des émissions. Et parfois, ça lui donne beaucoup de fil à retordre. Eh bien, écoute, au revoir à tous. On se quitte encore une fois en chanson avec les enfants de l'école Sainte-Marie de Courville-sur-Eure et leur magnifique tour du monde en 80 jours. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.